Voilà. Bonsoir à toutes et à tous, et nous allons ce soir aborder la longue liste de questions concernant l'opération Petit Poucé, et plus particulièrement l'eau. Hein, et je vais donc commencer de ce pas, et selon la tournure des événements, je vous dirai quelles sont les dernières nouvelles qui sont arrivées depuis le commencement, on va dire, de cette aventure. Parce qu'il y a, bien sûr, des rebondissements, comme il y en a toujours quand on travaille avec les êtres de la nature, les êtres de lumière et, en fait, beaucoup d'entités. Puisque nous sommes en interaction avec eux, comme vous pouvez le savoir, et nous sommes des joueurs. C'est-à-dire que si un joueur, voire des joueurs, se mettent à jouer, à ce moment-là, eh bien, le décor va réagir en conséquence. Et souvent, eh bien, on a des surprises, et surprises généralement positives, puisque l'objectif est bien sûr que le jeu se déroule le mieux possible afin de donner les meilleures conditions aux joueurs incarnés. Voilà, donc je vais maintenant commencer la liste des questions concernant par exemple la programmation des cristaux. Alors, une question de Mina. Combien de temps la programmation des cristaux que l'on va mettre dans l'eau va-t-elle durer? Garcia, une question de Garcia. Le réencodage réorganise l'eau et ses molécules de quelle façon? Il lui permet de retrouver sa pleine puissance lumineuse biophotonique. Alors bon, on va commencer déjà par la question de Mina. Alors, la programmation des cristaux, il faut faire une séparation entre la programmation dans le cristal et la programmation faite par le cristal dans l'eau. Hein, ce sont deux choses différentes. Alors, il faut savoir que déjà, la programmation qui se fait dans le cristal est quasi permanente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de degré d'usure. Que vous mettiez ce cristal au soleil, à l'air, à la chaleur, etc. C'est sûr que, quand je dis à la chaleur, si vous le mettez dans un four à 300 degrés, c'est sûr que les mouvements faits au niveau de la matière vont forcément apporter, on va dire, des erreurs de code. Hein. Et c'est sûr que si vous faites fondre carrément le cristal, il n'y aura plus de programmation en quoi que ce soit. Mais dans les conditions, on va dire, que nous connaissons actuellement, hein, c'est-à-dire entre moins 50 degrés et plus 100 degrés, la programmation du cristal ne bougera pas d'un iota, et ceci pendant des siècles. La seule façon de pouvoir ôter l'encodage de ces cristaux est de nouveau le réencoder. Mais comme je vous l'ai dit dans les articles, eh bien, l'encodage ne peut pas être fait uniquement par un humain. Il faut passer par une entité cristalline qui joue dans le règne des minéraux, qui puisse déverrouiller l'écriture. Donc, si vous essayez par toutes les méthodes inimaginables, prendre des aimants, enfin faire tout ce que vous voulez, eh bien, vous ne pourrez pas ôter l'encodage. Hein, et c'est ça que je vous expliquerai, je pense, dans la prochaine vidéo, qu'il y a encodage et encodage. Donc l'encodage qui est fait par, on va dire, les humains en règle générale et par la nature est un encodage de surface, on va dire. Hein. Par contre, l'encodage, on va dire, profond, l'inamovible, est un codage qui est lié aux dimensions. Et donc, aujourd'hui, pour répondre aussi à d'autres questions qui vont venir plus tard, eh bien, pourquoi certains cristaux qui sont encodés aujourd'hui, qui font des choses extraordinaires, pourquoi y a-t-il un nouvel encodage? Eh bien, je précise que ce nouvel encodage correspond au nouveau paradigme, c'est-à-dire qu'un changement radical dans la façon de fonctionner. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir des cristaux qui fonctionnent très bien à, on va dire, décrasser une maracana ou des choses comme ça, mais par contre, par rapport au nouveau paradigme, eh bien, ils ne seront plus, comme dirait l'autre, d'actualité. Alors, ils fonctionneront, certes, mais pas du tout avec l'efficacité maximale. C'est comme un vieux programme, quoi. C'est si vous aviez un vieux programme et vous essayez maintenant d'installer sous Windows 8, c'est sûr que il va fonctionner, mais peut-être pas au top du top, et il y aura peut-être certainement de nombreux plantages. Donc, c'est un petit peu ce qui va se passer. Donc l'opération Petit Poucé et l'encodage, c'est une opération par rapport au Nouveau Monde, hein, aux règles 5D, 6D, mais des règles fondamentales et primordiales. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc, la programmation des cristaux faite via, on va dire, un créateur incarné et grâce à l'autorisation d'une entité cristalline, eh bien, vous pouvez, à ce moment-là, faire quelque chose qui va être durable. Quelle que soit la température, hein, bien sûr, on va dire entre moins 50, moins 100, à plus de 100 degrés, ça ne fera rien, puisque c'est une programmation qui va se faire au niveau atomique, et non pas au niveau moléculaire, pour être plus précis. Alors maintenant, il faut rester à savoir combien, l'autre question, c'est combien de temps va rester l'encodage dans l'eau, parce que la pierre va forcément donner son encodage à l'eau. Et donc, ça va être variable, et c'est aussi fonction d'un certain nombre d'éléments qui sont effectivement la température, qui sont le degré de rayonnement, qui sont un certain nombre d'autres paramètres, puisque l'eau, par définition, est un support d'information. C'est-à-dire qu'elle vit et elle va prendre au fur et à mesure de l'environnement où elle est, l'information. Et donc c'est pour ça que dès qu'elle se trouve en contact avec l'encodage qu'il y a dans le cristal, elle prend automatiquement cet encodage. Alors, pour répondre toujours à d'autres questions à venir, comme ça j'irai un petit peu plus vite, il faut savoir que quand vous avez une eau de référence, ainsi, globalement, il est bien que la pierre reste en permanence dans l'eau. Moi, au niveau de mes bidons de 5 litres, j'ai quand même mis une pierre en plus. C'est-à-dire que même dans mes bouteilles plastiques, des grosses bouteilles, je mets quand même un cristal qui fait que je suis sûr que quoi qu'il arrive, quelle que soit la température, quelle que soit la lumière, quelle que soit tout, je m'en fous, je sais que l'eau sera toujours encodée correctement. Donc nous verrons ensuite en quoi, par exemple, la chaleur influence l'enregistrement. C'est à l'image, on va dire, par exemple, d'une disquette que vous mettez en plein soleil. Vous pouvez imaginer que les champs magnétiques qui sont inscrits dans la couche qui permet de la disquette, qui permet d'entretenir l'information, va subir de profondes déformations elle aussi. Donc la chaleur influence effectivement les codes magnétiques, puisque je vous rappelle que la chaleur est un champ magnétique. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut mettre l'eau de référence dans un papier alu, c'est-à-dire à l'abri de la lumière, et à l'abri des variations de température, et à l'abri de toutes les ondes électromagnétiques. Parce que comme ça, vous coupez tous les facteurs qui vont amoindrir la codification qui est dans l'eau. Parce que la codification qui est dans le cristal, elle, il n'y a rien qui peut la modifier. Voilà. Alors, maintenant, je vais passer à la question de Garcia. Le réencodage réorganise l'eau et ses molécules de quelle façon? Alors, là, c'est une question purement 3D qui dit, voilà, je voudrais savoir, puisque entre parenthèses, il y a écrit trimère, etc. Donc, ce sont des termes techniques qui correspondent à l'organisation spatiale de l'eau. Alors là, elle ne réorganise pas l'organisation spatiale d'une manière directe, elle dit simplement à l'eau quelle est l'information, entre guillemets, afin qu'elle se comporte différemment. Alors après, moi je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne fais que constater. Et donc c'est ce que vous ferez d'une manière ou d'une autre, vous prenez un cristal encodé petit poussé, vous le mettez dans de l'eau, que ce soit une barre au canard ou que ce soit l'eau du robinet, et vous regardez les résultats, les effets. Et si les effets sont très concluants, on pourrait dire il se passe quelque chose, mais vous n'êtes pas obligé de savoir techniquement ce qui s'est passé. Par contre, si vous voulez le savoir et que vous êtes outillé pour ça, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'être dans un laboratoire qui puisse étudier la configuration de l'eau, hein, de ses différentes formes, etc., etc., faites-le et puis dites-nous les résultats parce que nous ne sommes pas équipés pour ça. Alors, la question de Céline, peut-on amplifier l'effet des pierres encodées? Je pense aux ondes ou champs scalaires. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on comprend bien ce que ça veut dire, les ondes ou les champs scalaires, eh bien, ce sont des choses extrêmement dangereuses. Puisque, en fait, dans la réalité, des ondes ou des champs scalaires sont des particularités, on va dire d'écrasement dimensionnel. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez... et c'est pour ça que c'est excessivement dangereux et qu'il n'y a pas de protection naturelle contre par exemple les ondes ou les champs scalaires pour la simple et bonne raison, c'est qu'on joue avec l'interaction interdimensionnel. Donc vous pouvez faire qu'un individu puisse continuer à vivre, il est mort, mais son corps continue à vivre, mais lui, par exemple, techniquement, il n'est plus en connexion avec lui-même. Hein, donc on a des résultats de ces fameuses ondes scalaires qui ont été, on va dire, largement étudiées du côté de l'Afghanistan, par exemple. Donc, l'objectif d'un cristal, c'est que si vous lui balancez, bien sûr, des ondes scalaires, ça ne va pas forcément l'améliorer, puisque vous allez lui casser, enfin, lui faire intervenir des notions extradimensionnelles qui n'appartiennent pas à son monde. Donc, généralement, ça sera, comme les OGM, ça sera du destructif. Hein, sous couvert de soi-disant amélioré, en fait, vous allez tout casser. Donc, est-ce qu'on peut amplifier l'effet des pierres encodées? Alors là, oui, on peut amplifier, et donc c'est nous allons donc l'aborder au fur et à mesure de cette webconf, hein, ou voir dans d'autres articles, parce qu'effectivement, il y a par exemple, en faisant un feu du cœur, eh bien, vous pouvez bien sûr amplifier largement l'effet des pierres encodées. C'est-à-dire que si vous mettez une pierre encodée dans l'eau, par exemple, dans une bouteille, eh bien, elle va encoder l'eau. Mais si vous y faites un feu du cœur à l'eau, vous allez voir combien votre eau, elle, va prendre en puissance. Donc, nous réaborderons ce sujet-là plus tard, hein, parce que sinon, on va aller trop vite, trop tôt dans les détails. Une question de Yann. J'utilise depuis plusieurs années les biocéramiques. Terbelise pour la nourriture, mais surtout pour dynamiser l'eau. Ces céramiques, à structure micro-cristallisée, émettent des fréquences similaires à celles des champs naturels de la Terre. Elles ont fait leurs preuves en matière de tests gustatifs, radiesthésiques sur la mortalité d'alvins, croissance de végétaux, variation, taux de nitrate et de pH, photographie carrière, spectroscopie, Raman laser, bioélectronique de Vincent, etc. Qu'est-ce que les pierres encodées peuvent apporter de plus ou de différent? Eh bien, j'ai répondu un petit peu en avance à ta question, c'est que tout ça, ça fonctionne superbement bien dans un monde de 3D, 4D. Mais là, nous passons au monde de 5D, 6D. Donc, l'encodage n'est plus le même. Donc, ce qui a fonctionné ne fonctionnera nettement moins bien, voire plus du tout, quand nous serons passés dans le nouveau monde en termes de fréquence. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes à l'an 2 du nouveau monde, donc au tout début du début du début. Donc l'opération Petit Poussé est un petit coup de pouce, on va dire, pour que la vitesse aille un petit peu plus vite. C'est-à-dire que la transition entre ces deux mondes différents, puisque je rappelle que la 3D, 4D, c'est le monde de l'humain aujourd'hui, hein, c'est le moteur de l'humain, et nous montons maintenant dans le moteur du ciel, c'est-à-dire 5D, 6D. Donc forcément, il y a des différences. Nous ne sommes plus sur les mêmes fréquences. Donc ce qui a joué en 3D, 4D, ne jouera plus en 5D, 6D. Donc aujourd'hui, l'opération Petit Poussé a pour objectif, on va dire, d'accélérer le mouvement. Rappelez-vous, nous sommes des créateurs incarnés et chaque action que nous faisons a une conséquence directe sur l'ensemble. Une question de Céline. Concernant l'encodage, est-ce que le chant des baleines et des dauphins ne sert pas d'encodeur pour l'eau des mers et océans? Leur chant cristallin m'interpelle. Alors effectivement, nous savons tous que les chants des baleines et des dauphins sont là pour conserver à minima un état de vie à l'eau. En effet, par rapport à toutes les saloperies que nous avons faites en termes d'involution, mais aussi donc de pollution chimique, sonore, fréquentielle, etc., eh bien les baleines et les dauphins, on va dire toutes ces familles-là, sont là pour conserver à minima pour que l'océan reste vivant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'involution fait que, sous des prétextes de soi-disant recherche scientifique, nous continuons à exterminer ces animaux. En clair, eh bien, actuellement, l'ombre, les involuants, sont en train de tuer véritablement la capacité de l'eau à se reprogrammer et à être vivante. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc effectivement, les dauphins et les baleines sont là pour maintenir un niveau de vie minima au niveau des océans, en 3D, 4D. Donc le fait de pouvoir encoder avec les nouveaux codes de 5D, 6D, va leur permettre d'apprendre de prendre un bol d'air, mais aussi, on va dire, de les aider considérablement dans leur tâche. Parce que dites-vous bien que la 3D4D, c'est quand même beaucoup plus bas en fréquence. C'est une densité beaucoup plus basse que la 5D6. Donc, je vous dirai ça un tout petit peu plus vers la fin de cette webconf, quelles sont les interactions que déjà l'opération Petit Poussé a amenées et de comment le décor a commencé à réagir. Je vous dirai ça à la fin, après les questions. Donc, oui, les dauphins, les baleines, ça marche, 3D, 4D. Maintenant, on passe à la 5D, 6D. Et croyez-moi que quand elles vont recevoir les courants, on va dire, amenés, encodés 5D, 6D, ça va leur faire un baume au cœur, vous n'imaginez pas. Une question de Arnold. J'aimerais savoir quelles sont les conséquences d'une eau mal encodée. Eh ben, les conséquences d'une eau mal encodée, c'est par exemple celle que tu as au robinet. C'est-à-dire que c'est une eau qui a passé à travers des moteurs, des turbines, qui a été mise sous pression, qui est restée sous terre, qui a été mise dans des canalisations, qui ont été plus ou moins conductrices, à titre par exemple de cuivre. Vous savez que le cuivre est conducteur, donc tous les champs électromagnétiques sont forcément quasiment canalisés, et c'est pour ça qu'on s'amuse à mettre des aimants par exemple sur les canalisations pour éviter le tartre. Donc, par exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau du robinet est une eau qui est absolument encodée, mais erratiquement. Donc, à chaque fois que vous buvez ça, vous ne faites qu'introduire des bugs dans vos cellules. Donc, vous êtes dans un mode destructif. L'eau du robinet a un encodage complètement virulé. Et donc, c'est pour ça qu'elle est absolument impropre, on va dire, à la consommation en termes d'information, comme d'ailleurs être impropre toute l'installation électrique que vous avez chez vous. Parce que le courant électrique qui a été fabriqué par l'homme, même si c'est du 50 ou 60 Hz, c'est 220 volts ou 110, ou etc., est une électricité qui est fabriquée de manière, on va dire, aléatoire. C'est-à-dire qu'on fait tourner des turbines, des machins, mais il n'y a aucune cohérence véritablement en termes d'information. Or, donc, les mouvements des électrons à l'intérieur du courant sont complètement erratiques. En clair, l'électricité que nous fabriquons aujourd'hui est une merde informationnelle qui tue. Donc, si vous voulez être sûr de ce fait, eh bien, allez vivre sous les poteaux haute tension, des lignes haute tension, et vous allez voir à quelle vitesse vous allez déclencher des cancers, dont par exemple la leucémie. C'est connu. Donc, on ne vous dit pas que être dans une maison qui est complètement câblée, où il y a des câbles électriques partout, on ne vous dit pas que c'est malsain pour la vie. On ne vous dit pas, parce qu'autrement, vous ne pourriez rien avoir d'électrique chez vous. Donc, maintenant, on en est arrivé, je vous dis, au téléphone portable et à bien des saloperies, les ordinateurs y compris. Donc, tout ça, ça dégage des ondes électromagnétiques informationnelles totalement déstructurées. D'où une évolution de plus en plus grande. Et c'est pour ça qu'il est dit que plus une population, une civilisation augmente en technologie, donc un truc extérieur à lui-même, eh bien, généralement, il va plus vers l'autodestruction que vers, on va dire, le monde qui est au-dessus, la dimension qui l'attend, entre guillemets. Donc, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est pollué à tous les niveaux. Vous avez de la pollution lumineuse, de la pollution sonore, de la pollution électromagnétique et de la pollution, bien sûr, informationnelle à travers une eau qui est complètement... c'est un poison à l'état pur, même si elle vous paraît cristalline. Par exemple, bon, je vais en profiter avant d'aller aux autres questions. Les gens ils disent « Ah, mais moi, je puise dans la source à 80 mètres au fond. » Très bien. Prouve-moi qu'il n'y a aucun produit chimique qui arrive à ta source. Toutes les nappes phréatiques sont pratiquement polluées aujourd'hui. Alors, si on ne peut pas relever éventuellement des pollutions dites chimiques, il y aura forcément d'autres pollutions. Il n'y a pratiquement plus aucune eau pure sur Terre aujourd'hui. C'est pas parce que je rappelle qu'une eau paraît pure et cristalline, transparente, translucide, enfin tout ce que vous voulez, qu'elle est potable. Je vous le dis. Et donc c'est souvent comme ça que souvent dans les villes, ils mettent à un robinet quand vous avez une fontaine, eau non potable. Pourtant quand vous regardez l'eau, vous allez dire, mais elle me paraît normale. Sauf que elle est non potable, dans le sens qu'il y a des poisons dedans, même parce que vous ne les voyez pas avec vos yeux. Mais si vous regardez au microscope ou par d'autres techniques chimiques, vous allez voir que c'est pas bon de la boire. Du tout. Alors, une question de Théo concernant l'encodage à distance. J'ai en ma possession deux pierres taillées en cristal de roche que je souhaiterais faire encoder à distance par l'équipe, grâce à l'opération Petit Poussé. J'aimerais les utiliser à purifier l'eau du robinet pour la consommation quotidienne. Est-ce possible? Alors, simple. Aujourd'hui, si il nous a été donné à moi et à Corinne de pouvoir encoder directement, on va dire, l'eau et on va dire les cristaux grâce à notre collaboration avec le monde cristallin, c'est parce que il faut être dans la 3D, c'est-à-dire 3D matériel, c'est-à-dire toucher le cristal. Donc il n'est pas possible d'encoder des cristaux à distance. Sinon, bah, on le ferait, quoi. Ça serait, en termes de logistique, beaucoup plus facile. Parce qu'on dirait, tiens, chacun va mettre un petit tas de gravier chez lui, et puis bah, on y pense, et puis ça y est, c'est fait. Bah, si c'était ça, ça serait bien. Mais malheureusement, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Car c'est une association, je vous rappelle, entre un esprit cristallin et un humain. Or, il faut que l'humain touche le cristal pour que la programmation puisse se faire. C'est-à-dire qu'on utilise la puissance de l'humain, mais en direct, et non pas à distance. C'est comme si tu disais, voilà, est-ce que je peux faire fonctionner ma cafetière électrique, enfin même pas, mon fer à repasser, ou mon radiateur électrique de 4000 watts, à distance, sans connexion avec un fil électrique? Aujourd'hui, c'est pas possible. Hein? Ben voilà. Donc, il faut qu'il y ait quand même un câble qui arrive. Ben là, c'est pareil. Voilà. Alors, une question de Garcia concernant l'effet quantique. Si nous raisonnons de façon quantique, les questions ci-dessous deviennent-elles, pour ainsi dire, obsolètes, au sens où si on réencode l'eau, quelque part dans le monde, tout étant lié et à tout, tout étant lié à tout, et notamment l'eau à elle-même dans sa globalité, pourquoi ne pas considérer que l'action information du réencodage se diffusera seule de manière instantanée à toutes les eaux du monde, puisque seul le présent existe? Alors là, comme dirait l'autre, on commence à voir qu'il y a des liens, une logique, mais qui est une logique fausse. Et on va voir pourquoi. Ou bien nous situons-nous dans une situation type centième singe? Et si oui, dans ce cas, veux-tu bien expliquer pourquoi, au regard du raisonnement précédent, ce qui n'est pas, enfin, qui n'est pas illogique? Alors, donc là, Garcia, quand même, se rend compte qu'il y a deux possibilités. La première, elle dit, bah, si on en connaît un bout, théoriquement, tout devrait s'encoder, mais intuitivement, il sait qu'il faut quand même une masse critique, qu'il faut le centième singe, et parce qu'il faut quand même un minima. Et c'est exactement cela. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait une masse critique d'eau encodée pour que l'ensemble puisse s'encoder. C'est une règle naturelle de la nature. C'est-à-dire, c'est comme, par exemple, vous, regardez-vous dans votre fonctionnement. Si vous avez une pensée, tiens, j'aimerais ceci, une glace, par exemple, et que, d'un seul coup, la glace, ou dire, moi je la veux à la vanille, toutes les glaces du monde tournent à la vanille. Ça va pas être très faisable. Enfin, je veux dire, si ça se faisait, imaginez que l'autre d'à côté dit, non, moi je préfère la fraise, et que toutes les glaces du monde vire à la fraise. L'autre qui a la vanille, il va dire, je suis pas content. Moi. Donc, il faut une masse critique. Et donc, quand il y a suffisamment, on va dire, une quantité minimale qui est introduite dans le système, c'est-à-dire que s'il y a suffisamment de gens qui veulent de la vanille, au détriment, entre guillemets, de ceux qui veulent de la fraise ou du chocolat, enfin, d'autres goûts, eh bien, petit à petit, la vanille va prendre le dessus. Et ça sera proportionnel. C'est-à-dire que, quand la masse critique sera atteinte, le mouvement ne sera plus arrêtable. Et donc, ça demandera ensuite du temps. C'est-à-dire, hein, là, on n'a plus le temps présent, hein, parce que le temps présent, c'est une autre façon de regarder. Mais dans notre vision dite linéaire, eh bien, il faut comprendre qu'il y a une transmission. C'est-à-dire que si vous mettez un code dans l'eau, eh bien, il faut bien que ce code se transmette à l'autre molécule. Et donc, ça peut pas se faire instantanément. C'est pas parce que je vais pisser à la boule que, automatiquement, à Los Angeles, l'eau sera codée. Si c'était fait vraiment instantanément, je croyais-moi que Fukushima, on mangerait plus d'huîtres au Léron en ce moment-là. Hein? Donc, faut comprendre qu'il y a une masse critique. Et cette masse critique, eh bien, c'est la France qui va l'apporter d'une certaine manière. L'opération Petit Poucet va effectivement, si elle est bien faite, être un déclencheur suffisant pour que progressivement l'ensemble de toutes les mers soit recodé, et ainsi que tous les cours d'eau. Mais c'est une histoire de temps et aussi, on va dire, de parce que si on met 10 ans pour le faire, bon, c'est bien. Si on met 1 an, ce sera mieux. Si on fait 6 mois, là, ça va décoller. Là. Donc, je vous rappelle, c'est un encodage 5D6D. Donc, ça veut dire que plus vite ça sera fait, plus rapidement ça sera fait, plus généralement, plus homogénétiquement parlant, ça sera fait, et plus vite l'humanité va en profiter. Et quand je dis l'humanité, ça c'est les humains, mais aussi tous les êtres de la nature, car une nouvelle eau, enfin une eau encodée 5D6D, va permettre à toutes les êtres de la nature, à tous les animaux, à toute forme de vie, de pouvoir bénéficier directement de cet encodage 5D6D. Et donc, on peut dire que le nouveau monde avancera beaucoup, beaucoup plus vite que si on ne faisait rien. Voilà pourquoi l'eau. Et d'ailleurs, à cet effet, j'ai commencé donc à vous faire des vidéos sur 7D12D qui commenceront à apparaître à partir de lundi. Donc pour l'instant, j'ai fait 3 vidéos, mais il y en a encore quelques-unes à venir qui vont vous expliquer en fait le béaba de tout ça, et de voir qu'à travers un petit caillou simplement balancé dans la rivière d'à côté, va changer radicalement le futur de l'humanité. Je sais que ça peut paraître grandiose, des trucs pas possibles, mais croyez-moi, le petit poussé, c'est des petits cailloux, plus des petits cailloux, plus des petits cailloux qui vont ramener à la maison. Et donc, plus il y aura de petits cailloux, et plus vite on sera à la maison. Alors, une question de amour. Est-ce qu'une femme enceinte peut boire de l'eau encodée? Oui. Est-ce que les jeunes enfants peuvent boire de l'eau encodée? Oui. Lorsque nous commençons à boire l'eau encodée pour la première fois, quelle quantité d'eau pouvons-nous absorber? Intéressant, n'est-ce pas? Devons-nous boire cette eau en augmentant progressivement les quantités? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, quand vous aurez une eau qui sera encodée et uniquement encodée, vous ne verrez pas de gros changements vibratoires. Il y en aura. Il y en aura parce que quand une eau s'encode, eh bien, elle va déjà se réorganiser en ôtant, on va dire, une partie de la merde qu'elle avait à l'intérieur. Mais quand je dis de merde, en termes de codage, je ne dis pas que l'eau encodée va naturellement ôter le chlore, virer toutes les pesticides et insecticides, virer toutes les saloperies, le fluor et compagnie que l'homme a mis dedans. Là, l'encodage, on parle en termes d'information. Donc effectivement, quand vous allez boire une eau encodée, eh bien, votre corps va prendre en compte cette eau encodée et donc va agir en conséquence. Alors, l'avantage de cette eau encodée 5D6D, c'est que votre corps reçoit déjà, lui, les informations 5D6D, via le soleil, via Maman Rantiagaga. Et donc, en recevant sur un support physique ce code, eh bien, sa transformation sera beaucoup plus facilitée, hein, sera beaucoup plus rapide. Donc déjà à ce niveau-là, eh bien, toute personne qui boira de cette eau, on va dire encodée 5D6D, va améliorer sa transition entre les deux mondes, entre le monde dit carboné et le monde silicé. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, on aura un deuxième élément qui sera l'aspect énergétique. Hein, c'est un deuxième élément. C'est-à-dire, quand je dis l'aspect énergétique, ça va ce qu'on va appeler les unités bovis, globalement. C'est-à-dire l'aspect qui va être énergétique et non pas informatif, ce qui n'est pas la même chose. Donc, l'aspect énergétique, lui, si l'eau est à 10 puissance 23, vous n'allez pas la boire comme ça, dire « tiens, je vais boire 1 ml », parce que littéralement, vous allez être arrêté avant. En effet, toutes les personnes qui ont commencé à goûter à l'eau encodée, suffisamment montée en puissance, eh bien, généralement, prennent des gorgées et s'arrêtent là parce qu'ils sentent que ça les vibre tellement que faut pas qu'ils en prennent plus, quoi. C'est un petit peu comme de l'alcool, on va dire, d'une certaine manière. Mais c'est pas un alcool qui va vous donner mal à la tête et qui va faire que vous allez avoir des problèmes d'estomac, hein, et des maux de crâne. Non, c'est que vous allez sentir que votre corps, il accueille tellement l'information et l'énergie avec enthousiasme, que vous allez vous sentir vibrer de partout. Et donc, vous ne pourrez pas boire comme vous dites, bah, j'ai soif, je bois. Non, vous allez y aller gentiment. Et donc, vous allez voir que petit à petit, progressivement, vous allez vous y habituer. Et cela faisant, eh bien, cette eau, si elle est bien énergétisée suffisamment, eh bien, vous allez voir que plus vous allez boire, et moins vous allez manger. Il y a un lien direct et proportionnel. C'est-à-dire que vous n'avez plus faim. Si vous écoutez votre corps, eh bien, il vous dira plutôt « bois un coup de cette eau-là » plutôt que de me charger avec toute ta saloperie qui vibre très bas. Y compris même s'il dit « ah, moi, je mange des carottes crues et ceci et cela ». Non, non, je vais vous dire que même tout ça, ça va vous plomber. Donc, vous allez découvrir, à fur et à mesure que vous allez manger, va boire de l'eau encodée hautement, on va dire, énergétisée, vous allez voir que progressivement, vous allez de moins en moins manger d'aliments solides et qui généralement vibrent très bas. Alors, là aussi, autre chose, c'est que si vous voulez laver votre salade, ben, lavez-le avec cette eau encodée. Et vous allez voir que votre salade, elle va passer de 300-400 ou peut-être 500 bovis, et encore si elle est là, à quelques millions de bovis, et vous allez dire, c'est incroyable. C'est-à-dire que vous redonnez les vies à la salade elle-même. Donc quand vous allez manger la salade, croyez-moi que vous allez donc bénéficier de cette énergie encore sous un angle différent. Donc, à ta question, devons-nous boire cette eau en augmentant progressivement les quantités? Eh bien ça, c'est selon chacun et tu le sentiras de toi-même. Donc c'est toujours la même réponse. Suivez ce que votre corps vous dit de faire. Et ne soyez pas dans la posologie du médicament qui dit « bon, aujourd'hui, je prends un quart de comprimé, demain un demi, et puis après-demain trois quarts, et la semaine prochaine, un cachet complet ». Ça marche pas comme ça. Votre corps, nous sommes tous différents, et votre corps vous dira exactement ce dont vous avez besoin. Une question de Michael. « J'ai bu mon premier litre d'eau encodée vendredi matin. Je ressens déjà quelque chose au niveau de la gorge. » genre de serrage, et au niveau du thymus, chakra du cœur, et même dans la poitrine, quelque chose qui serait comme une sorte de chaleur, assez difficile à décrire. Est-ce normal? Et à quoi est-ce dû? Eh bien, c'est simple, oui, c'est normal. Attendez, j'ai perdu là. Hop, voilà, oui, c'est normal. Parce que cette chaleur, c'est que tout simplement, tes cellules deviennent joyeuses. Donc, elles dégagent. Elles dégagent de la chaleur, elles sont contentes. Et tu vas voir que progressivement, à fur et à mesure que tu vas boire de l'eau encodée, eh bien ton corps va se mettre à vibrer. C'est-à-dire qu'elles vont vibrer de joie. Donc bien sûr, ça a commencé par la gorge, puisque tu as commencé à boire, bon, ça attaque la gorge, ensuite le thymus, et c'est sûr qu'au niveau du cœur, ça vous fait des choses. Et donc ça va continuer après son travail beaucoup plus bas, forcément. Donc quand ça ira forcément dans l'estomac, dans les intestins, dans les reins, et en fait dans le reste du corps, eh bien là aussi ça va faire du nettoyage, ça veut dire « ah ça y est, on nous donne enfin ce dont on a besoin pour travailler ». Car grosso modo, tout ce que vous donnez à votre corps est généralement mort, c'est-à-dire que ce que l'on mange est souvent d'une vibration inférieure à votre propre vibration. Donc globalement, vous dites « je mange » et en fait, vous êtes en train de vous enterrer, c'est-à-dire de baisser votre énergie. Donc la croyance qu'il faut manger pour vivre est d'abord une ânerie, la deuxième qu'il faut manger de la viande pour être fort étant une ânerie encore beaucoup plus forte, et vous allez voir que, en fait, dans la réalité, si nous avions une eau suffisamment, on va dire, pure, mais ça on va voir ce que ça veut dire, avec une énergie et un encodage correct, c'est-à-dire en fait celle qui aurait été d'origine, hein, c'est-à-dire sans aucune pollution, sans aucun programme aveuglant, eh bien, on serait en parfaite santé et on ne connaîtrait pas la tombe. Et on n'aurait pas besoin de manger. Donc, enfin, pratiquement pas. Et c'est pour ça que sur certaines planètes, bah, ils sont frugivores, c'est-à-dire, mangent que les fruits. Les carottes, ils connaissent pas les choux non plus, quoi. Hein, parce qu'ils veulent simplement quelque chose de light dans l'aspect aérien des choses. Mais ils vont pas bouffer 3 kilos de pommes tous les jours. Donc vous verrez que plus vous boirez de cette eau encodée petit poussé, et plus vous allez sentir la différence. Bon, de toute façon, il n'y a que l'expérience qui peut vous démontrer les choses. Donc, si vous n'êtes pas sûr de votre goût, commencez avec la mare à canard à côté, regardez comment les poissons réagissent, regardez comment la vie réapparaît, et puis ben, vous direz, si la vie réapparaît dans la mare à canard polluée partout, alors peut-être qu'en moi, ça pourrait peut-être faire la même chose. Alors, une question de Céline. Quelles sont les manifestations physiques, émotionnelles et spirituelles suite à l'ingestion de l'eau vibrée et encodée ? Eh bien, c'est simple. C'est quelque chose que j'ai abordé, on va dire, dans les vidéos que j'ai faites et qui vont être diffusées dès la semaine prochaine sur CD12D, c'est-à-dire comment, à partir des éléments, on va dire, énergétiques, que sont globalement, on va dire, les chakras, et comment ça se répercute sur votre physique, sur votre émotionnel, et bien sûr, sur votre aspect spirituel. Car vous allez voir que tout ça, ça s'enchaîne. Ok ? Donc, l'explication, on va dire, plus détaillée, logique, et vous verrez que c'est, on dirait, mais oui, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant à ça, quoi ? Mais c'est normal. Imaginez que les Américains ont voulu vendre de l'eau filtrée au même titre que si c'était de l'Evian. Alors, ils ont réussi leur coup, on va dire, aux États-Unis, mais ils n'ont pas réussi leur coup quand ils sont arrivés en Europe et particulièrement en France. C'est-à-dire, attendez, je ne sais plus c'était quelle eau, et en fait, cette eau n'avait rien de particulier, sinon qu'elle était filtrée, ceci, ceci, cela, et en fait, tu payais comme une autre source, mais ce n'était pas une autre source. On va dire, la bêtise, on va dire, de la consommation à l'américaine, ça n'a pas passé là. Ça n'a pas passé du tout, et ils ont replié les gaules, comme on dit, et voilà. Hein ? Il faut quand même, enfin, comme je dis souvent, pas prendre les gens pour des cons, bien qu'on le fasse quotidiennement. Alors, feu du cœur, donc une question de Claudette. Peux-tu nous rappeler comment faire le feu du cœur, s'il vous plaît ? Alors là, je ne suis pas forcément le mieux placé pour vous le dire, mais en tant que géométrie, mais n'empêche que c'est relativement très simple. Et donc, les vidéos qui sont la semaine prochaine prévues, et donc celles de lundi, vous explique d'où provient le feu du cœur, comment il est fabriqué. Et donc, il devrait y avoir normalement, on va dire, une méditation faite à cet effet et qui sera donnée par Guise. Parce que nous avons dit à Guise, écoute, là, on a de plus en plus de demandes de gens qui veulent améliorer leur feu du cœur. Et nous, on a suivi des entraînements, des choses, etc. Mais si on leur dit aux gens qu'il faut qu'ils fassent tout ça, ils vont laisser tomber. Et donc c'est pour cela que lors de mon périple, on va dire breton, eh bien, j'ai dit aux gens, bah, vous prenez le verre d'eau qui est en face de vous, le jus de pomme, et puis donnez-lui un feu du cœur. Alors bon, j'ai dit, c'est quoi ? J'ai dit, bah, écoutez, vous faites ceci, vous faites cela, puis on voit ce qui se passe. Et ça a marché dans tous les cas. Simplement, comme dirait l'autre, au lieu peut-être d'avoir un feu du cœur, si je donne une forme de... comment dire, de mesure, bah, il y en a un qui était un feu du cœur à 0,5, l'autre à 1, l'autre à 3, l'autre à 5. Nous, c'est évident qu'on a tellement travaillé la chose que quand on fait un feu du cœur, on est plutôt à 50 ou à 100. Donc, quand on fait un feu du cœur à de l'eau, ou à quelle que soit la chose, il est puissant. Mais il est puissant parce que nous avons débouché des tuyaux. Mais ces tuyaux, l'eau, petit poussé, va vous aider à les déboucher. Donc, plus vous allez pratiquer, puisque c'est un muscle, et plus vous allez avoir une puissance de feu du cœur qui va devenir de plus en plus importante. Donc, au début, quand vous allez commencer à faire du feu du cœur, il y aura des résultats. Par rapport à rien, c'est déjà quelque chose. Mais vous allez voir qu'au fil du temps, ce feu du cœur va devenir d'une puissance que vous n'imaginez pas. Car le feu du cœur, c'est l'amour à l'état pur. C'est-à-dire une capacité de communication infinie. Quoi ? Capacité de communication. Oui, l'amour, c'est une capacité de communication. Et donc, en buvant de l'eau encodée 5D6D, eh bien, vous faites l'amour avec toutes vos cellules. C'est-à-dire qu'elles accèdent à une information de celle du Nouveau Monde et qui est en accord avec les ondes qu'ils reçoivent. Et donc là, je veux dire, elles avancent, elles décrassent, elles débouchent les tuyaux. Hein, et donc, correspondant, en conséquence, vous aurez un feu du cœur qui va devenir de plus en plus puissant. Et d'ailleurs, on verra, hein, toujours, je vous expliquerai tout ça en vidéo, vous verrez qu'à ce moment-là, vous pourrez mesurer vos propres progrès. Parce que l'objectif, c'est pas qu'on fasse appel à quelqu'un à droite à gauche en disant, voilà, je vais te montrer, je suis un pro, etc. Non, c'est que vous allez pouvoir faire les essais par vous-même. Et vous en rendre compte par vous-même. par ce que vous allez ressentir, mais aussi par les choses que vous allez pouvoir mesurer. Et là, les mesures seront les mesures. Alors vous direz, bon, bah, c'est peut-être moi qui me fais du cinéma. Et alors, bah, vous demanderez à votre conjoint. Il dira, bah, écoute, toi, tu n'as qu'à mesurer, et puis mesure, et puis bah, vois. Et vous verrez que les mesures seront identiques. Mais à cela, il y a quelques paramètres à prendre en ligne de compte, et ça vous sera expliqué. En effet, généralement, quand vous mesurez quelque chose en unité bovis, eh bien, la référence est souvent par rapport à votre propre référence. Donc, si vous avez, on va dire, quelqu'un qui vibre à 8000 unités bovis, il va prendre des mesures par rapport à lui-même. Par contre, s'il roulait à 30 000 unités bovis, il va prendre d'autres mesures. Donc, les personnes n'étant pas à la même référence, il est évident qu'il y a des variations dans les chiffres annoncés. Donc, il y a des façons de pouvoir faire que, quelle que soit la personne qui mesure, on ait des résultats cohérents. Mais ça, je vous en parlerai, chaque chose en son temps, je vous en parlerai une fois que j'aurai, je vous aurai dit d'autres événements, enfin d'autres choses en fin de webconf. Hein, vous comprendrez pourquoi je ne peux pas vous répondre maintenant. Enfin, je ne peux pas. Je peux vous dire des choses, mais je ne sais pas si elles seront toujours valables dans 3 jours. Voilà. Parce qu'il y a eu des changements. Alors, où j'en étais là? Une question de Hippocampe concernant les bouteilles de référence. Je n'ai pas bien compris la prise de terre concernant tes écrits. Mettre à la masse lorsque l'on vit à l'étage qu'il y a du lino au sol. Merci de tes explications. Alors, une mise à la masse, ça veut dire que tout chose électromagnétique qui va être captée par la cage de Faraday, eh bien, va être obligée de se décharger, parce que sinon, bah, elle se charge, elle se charge, elle se charge, et puis, bah, elle fait plus vraiment sa fonction de cage de Faraday. Donc, mettre à la masse, c'est de faire un contact entre la boîte de conserve et quelque chose qui est relié à la masse, c'est-à-dire relié à la Terre. Alors, il y a plusieurs choses qui sont reliées à la Terre dans un appartement, même s'il y a du lino. Donc, s'il y a du lino, c'est qu'il y a certainement du chauffage central. Et s'il y a un chauffage central, c'est-à-dire avec des radiateurs et des tuyauteries, bah dis-toi bien que la tuyauterie des radiateurs est reliée à la masse. Donc, ta boîte de conserve, hein, ou ton, enfin, je veux dire les boîtes de conserve de l'eau, eh bien, tu les fais toucher tout simplement, tu les mets au contact d'un tuyau du chauffage, et tu seras à la masse, ou du radiateur, comme tu veux. Donc, c'est sûr, s'il y a de la peinture, ça ne va pas être terrible en termes de contact. Donc, bah, il faut gratter un petit peu. Il y a toujours des endroits où il y a, on va dire, un contact possible. Par exemple, tu as les purgeurs. Hein, les purgeurs, bah, les pièces de laiton, vous savez, pour vider l'air qu'il y a dans les radiateurs. Enfin, vous trouvez une surface où il n'y a pas de peinture. Et avec un fil électrique, que tu auras bien sûr dénudé, tu l'entoures autour et tu le mets au contact de la boîte de conserve. Et à ce moment-là, eh bien, ta cage de Faraday sera reliée à la masse, et à partir de là, eh bien, elle fera son office tout à fait correctement. Voilà. Donc, quand je disais posez-le par terre, si vous avez du carrelage, généralement le carrelage est relié au plancher. Le plancher, généralement, s'il y a du carrelage, enfin, quand je dis carrelage, dans les bâtiments HLM, vous avez forcément du béton. Dans le béton, vous avez de la ferraille, et forcément, tout ça, ça a les pieds dans la terre. Donc, vous avez une prise de masse tout à fait naturelle. Si par contre, vous posez sur un plancher en bois, là, vous n'avez pas de prise de masse, parce que le bois n'est pas véritablement un conducteur en soi. Donc, le poser sur un plancher, un plancher en bois, c'est pas terrible. Enfin, ça joue pas trop, quoi. Alors, j'ai aussi répondu dans les commentaires que vous avez aussi la prise de masse d'une prise électrique. Hein, donc, vous pourriez très bien dire, je relie le fil de la masse de la prise électrique à ma boîte. Le seul truc, et je vous déconseille, c'est que la prise de masse de la prise électrique est complètement, on va dire, elle-même, polluée par toutes les ondes électromagnétiques du courant qui circulent dans les mêmes tuyaux. Vous savez, dans une prise, vous avez généralement 3 fils qui arrivent. S'il y a la masse, vous avez le fil de terre, qui est la masse, vous avez la phase et le neutre. Et donc là, vous avez la phase, forcément, vous avez un transport d'électrons. Et donc ce transport d'électrons va polluer votre fil de masse. En clair, eh bien, si vous reliez une prise électrique à votre boîte de conserve, d'autres références, eh bien, la boîte de référence va vibrer, tout simplement, en fonction de la fréquence et de l'information qu'il y a dans le courant électrique. Donc, au lieu de décharger l'information, vous allez la charger. Donc, c'est absolument pas la chose qu'il y a à faire. Vous voyez, donc il y a plein de solutions, il y a plein de possibilités, simplement on répondra, et je pense que le réseau social, c'est-à-dire avec les forums et tout ça, il y a des réponses qui se feront petit à petit au fur et à mesure qu'on avancera, au cas par cas. Hein, vous savez, et comme je dis, il faut être créatif, hein, c'est-à-dire il faut trouver des solutions simples, à pas cher, et croyez-moi, il y en a plein. Simplement, quand on ne sait pas, c'est sûr que c'est pas une évidence. Une question de Céline. D'après tes écrits, il n'est pas nécessaire de protéger, grâce à l'alu et aux boîtes de conserve, la bouteille servant de référence et contenant le galet encodé. Non. Seules les bouteilles de consommation sans cristal doivent être protégées. C'est bien ça. Alors, là, il y a confusion un peu entre les deux. C'est-à-dire que l'eau de référence, parce que l'eau de référence, ça va être, comme le nom l'indique, une référence. Parce que pour encoder une eau à très haut niveau énergétique, ça prend quand même beaucoup d'énergie. Donc, généralement, vous n'allez pas en fabriquer 15 litres, parce que ça demande énormément d'énergie. Comme je vous disais tout à l'heure, au niveau du feu du cœur, si vous voulez énergétiser 15 litres de flotte en feu du cœur direct, ça va vous demander une autre énergie que si c'était simplement 1 litre. Vous voyez ? Donc, vaut mieux donc avoir une petite quantité, bon, généralement c'est des bouteilles d'un litre ou de 50 centilitres, enfin bon, une bouteille quand même, et celle-ci, il faut la protéger de tout. Alors, bien sûr, il y a une pierre dedans. Il faut la protéger de tout, donc alu, boîte de conserve. Ok, bien. Mais c'est pas celle-là que vous allez boire, enfin, directement. Donc, vous allez faire un transfert dans d'autres bouteilles, et généralement, les autres bouteilles, pour des raisons pratiques, attendez, j'ai quelqu'un là qui s'excite sur Skype, hein. Attendez. Bon. Je croyais avoir fermé Skype et apparemment c'est pas le cas. Alors attendez, je vais le quitter ce Skype parce que je pensais l'avoir fait. Alors, voilà, j'espère, oui, on m'entend toujours, tout en son registre, c'est impeccable. Donc le truc c'est que c'est que forcément vous allez remplir d'autres bouteilles, et généralement les autres bouteilles sont des bouteilles en plastique. Je dis généralement, mais c'est pas obligé, ça peut être des trucs en verre, donc d'autres bouteilles en verre, c'est pas le problème, et ils peuvent elles-mêmes être protégés par des papiers alu, c'est-à-dire que l'eau de consommation, comme je dis, eh bien c'est une eau qui devra être encodée, c'est-à-dire que vous allez verser dedans une petite partie. Alors, je dis une demi-tasse, hein, comme ça pour faire plaisir, mais une petite partie dans votre eau de consommation, et cette eau va, contaminer l'autre, en énergie et en code. Donc, le truc, c'est que cette eau de consommation, comme je vous disais, il faut éviter de la mettre à la lumière, il faut éviter de la mettre à la chaleur, faut éviter, comme l'eau de référence. Mais bon, si à chaque fois que vous voulez boire, frotter les boîtes de conserve, ça va prendre du temps. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je mets dans des gros bidons de 5 litres. Hein, donc, je les remplis à 4 litres 95, on va dire. Et puis, je rajoute 0,05 d'eau de référence. Je ferme et je vais attendre. Alors, généralement, comme il y a quand même un certain temps, moi, je le fais le soir. Et puis, je sais que le lendemain matin, c'est nickel chrome, je peux l'utiliser sans aucun problème. Donc ça, c'est mon eau de consommation. Donc, quand vous avez des bidons de 5 litres, c'est quand même plus facile à gérer, et vous pouvez en fabriquer plusieurs. Mais si ces bidons sont eux-mêmes, entre guillemets, entourés d'alu, c'est toujours mieux. De toute façon, c'est toujours mieux. Et là, moi, je me suis pas embêté. J'ai aussi mis une pierre dedans. Comme ça, je suis sûr que, de toute façon, l'encodage bougera pas d'un iota. Parce que c'est pas vu le prix des bières qu'on va gêner. Donc, j'ai fait 3 bidons de 5 litres. Hein, et donc, ça me fait 4 bières à avoir en tout. Ça va. Je veux dire, ça va quand même pas pisser loin en termes de coût. Mais au moins, je suis sûr que l'eau de consommation ainsi que l'eau de référence sera tip-top. Même si c'est des bouteilles en plastique. Hein? Et bien sûr, mes bidons de 5 litres, je les ai pas mis dans des cages de Faraday. Parce que bon, c'est quand même bordélique. Hein. Pas bordélique, je veux dire. Bon, vous comprenez, donc, mais cet eau de consommation, ce bilan de 5 litres, il va flinguer. C'est-à-dire qu'il ne va pas rester pendant une semaine. Hein, donc, l'autre consommation, tout dépend ce que vous faites avec. Nous, à notre niveau, on fait quasiment tout. Hein, c'est-à-dire, on lave la salade avec, tout. C'est-à-dire que maintenant, on ne fait rien sans cette eau encodée. Donc, ça fait une certaine consommation. Donc, à vous de voir quelle est la consommation que vous utilisez chaque jour. Est-ce que vous utilisez 5 litres, 10 litres, 15 litres, 20 litres? Et c'est à vous de faire en conséquence. Comme ça, vous êtes sûr que vous renouvelez votre stock d'eau de consommation quasiment tous les jours, grand maximum tous les 2 jours. Une question d'Isabelle. Un thermos par voie verre ou inox peut-il être utilisé à la place de la bouteille en verre? Alors, un thermos, si sa paroi est en verre, c'est bien. Si elle est en inox, c'est gênant. L'inox est conducteur, c'est gênant. Enfin, moi je sais personnellement, j'éviterai un contact de l'eau avec le métal. Voilà, donc après, bon, si le thermos est protégé, c'est-à-dire que c'est une bouteille de verre avec, on va dire, de l'inox autour après, ou quelque chose pour la protéger des chocs, bon, pourquoi pas. De toute façon, le jour où vous allez avoir un pendule dans les mains et vous allez mesurer l'eau, vous allez bien voir quelle est la différence entre les différents contenants, et c'est à vous de faire vos essais. Bon, moi, je vous dis les grandes règles et ce qui marche, hein, et à pas cher, parce qu'un thermos, généralement, c'est quand même plus cher qu'une bouteille en verre et qu'un papier à lit. Peut-on mettre, une question d'Agnès, peut-on mettre la bouteille au frigidaire? Ça sert à rien. Sauf si t'habites au Mali ou ailleurs, il fait 45 degrés à l'ombre. Mais bon, généralement, ils ont du mal à avoir le frigo. Donc il n'y a pas de nécessité de mettre l'eau de référence au frigidaire. Je vois une question de Cathy. À quoi sert de l'eau de référence si tu mets aussi une pierre dans les bouteilles plastiques? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une eau encodée, quand elle donne son code, va, on va dire, se diluer dans le temps. Théorie du centième singe. Donc, si tu mets 3 gouttes d'eau de référence dans une bouteille qui en fait 1 litre, eh bien, crois-moi que l'encodage va être quand même plus délicat, plus... Ça, voilà. Alors que si tu mets une pierre, tu es sûr que l'encodage est OK. Ça, c'est la partie encodage. Ensuite, la partie énergétique. L'eau de référence vous allez monter en énergie, mais alors d'une façon colossale. Donc c'est pour ça que quand vous mettez l'eau de référence, vous avez une partie énergétique qui va être transférée, qui vous évitera de passer, on va dire, d'une eau du robinet qui est grosso modo à 300-400 unités bovis, vous allez passer à un quadrilliard d'unités bovis. C'est sûr que même si elle se dilue dans votre bouteille de 5 litres, du quadrilliard, vous allez tomber au trilliard. Mais y a-t-il une différence entre un trilliard et, on va dire, 300 unités bovis? Oui, oui, il y a beaucoup de zéros de différence. Par contre, en termes de codification, eh bien, vous êtes sûr que la codification sera à 100% et pas à 25 ou 30%. D'accord? Parce que sinon, si vous voulez que la codification soit nickel-chrome dans votre eau de consommation, c'est pas 3 gouttes d'eau. Il va falloir mettre une tasse complète, c'est-à-dire que dans un litre, il va falloir au moins mettre 10 décilitres ou 15 décilitres pour être sûr que la codification est correcte. Donc, concernant, les pierres encodées, c'est pas le prix qui est un frein. Donc, par sécurité, mettez une pierre en plus, et puis vous êtes tranquille, vous êtes sûr que vous aurez une eau qui sera encodée totale. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont simples. Tu dis, mais pourquoi il faut une bouteille encodée en verre et puis les autres, elles sont en plastoche? Si tu peux avoir que des bouteilles en verre, n'utilise que des bouteilles en verre. Mais on voit assez rapidement que les bouteilles en verre, c'est des quantités limitées, ça dépasse rarement 1 litre. Et quand tu laves ta salade, 1 litre, c'est vite parti. Donc si tu veux jouer avec 25 bouteilles en verre, avec tous les problèmes que ça cause, c'est ton problème. Par contre, si tu utilises un bidon de 5 litres, que tu sais que de toute façon, le soir même, tu l'auras vidé, tu n'auras pas de problème. Soyez pratique, soyez concret, soyez... vous posez des questions, là, je vois des questions qui réfléchissez un peu, soyez pratique. Hein? Je vois une question de Timo, au fait. L'eau encodée pour le nettoyage, oui. pouvez tout. L'encoder, vous l'utilisez pour tout, pas juste pour boire. Et vous verrez que ça va faire des choses différentes. Donc quand vous utiliserez l'eau encodée pour arroser le jardin, vous allez voir ce qui va se passer dans votre jardin. Tout pour tout. Donnez de l'eau encodée à vos animaux, vous allez voir comment ils vont péter la forme. Tout. Vous voyez, c'est simple. Alors, une question de Coton la brodeuse. Quels sont les matériaux les plus appropriés pour recueillir l'eau dans laquelle sera immergé un cristal encodé? Bah, je l'ai dit, ça va être votre eau de référence, il faut que ça soit un truc en verre. C'est ce qu'il y a de mieux. Ça peut être un truc en plastique, ok, pas de problème. Mais la dégradation de votre eau de référence sera plus importante. Donc, mettez dans du verre, parce que du verre, c'est du cristal. Ok, du plastique, c'est pas du cristal. Et donc, du plastique, c'est encodé, c'est de la merde. Excusez-moi. Hein. Donc, on peut accepter une quantité, on va dire. Hein, mais l'eau de référence, priorité, le verre. Priorité. Et si vous ne pouvez pas faire autrement, prenez du plastique. Mais vous verrez, quand vous mesurez votre eau de référence, que si vous laissez votre eau de référence dans un plastique, il va falloir régulièrement la recharger, mais encore plus que si elle était simplement dans du verre. Pour l'eau de consommation, on s'en fout, le plastique, il n'a pas le temps de polluer la flotte, parce que vous l'aurez consommé avant. Voilà. Une question de Fran. Tu nous as dit que l'eau revitalisée par les petits poussés se déchargeait à la chaleur. Oui, c'est-à-dire c'est l'aspect énergétique. Et l'encodage va aussi souffrir si c'est une forte chaleur. En clair, si vous prenez l'eau encodée, vous la mettez dans la bouilloire pour faire une infusion, vous pouvez vous dire une chose, que l'eau ne sera plus encodée et que l'énergie sera égale à zéro. C'est-à-dire, bah, autant prendre l'eau du robinet tout de suite. Donc, ça je l'ai écrit, vous faites votre infusion si vous avez vraiment envie de la faire, et quand votre infusion commence à refroidir, mettez-y un petit coup d'eau encodée, et bah, on va dire, la totalité de l'eau qu'il y a va pouvoir remonter avec un encodage. C'est-à-dire, au lieu de boire une eau qui soi-disant sera avec telle infusion et qu'il n'y aura plus rien dedans, bah, vous allez voir une infusion qui sera peut-être à 10 000, 15 000, 100 000 ou 1 million d'unités bovis. C'est toujours mieux que rien. Hein? Alors, j'ai pas fini la question, elle était sur notre page. Or, nous comptons voyager en camionnette aménagée et nous disposons que d'un frigo box refroidissant un peu via la batterie. Sachant que tu voyages à peu près dans les mêmes conditions, comment fais-tu pour avoir ta bouteille référente et les autres bouteilles au top niveau vibratoire? As-tu trouvé quelques astuces? Nous comptons également déposer quelques petits poussets dans les rivières. Bon, le truc, c'est simple. C'est que mon eau de référence est toujours dans les boîtes de conserve, elle est toujours dans la lune, et ma voiture ne monte pas à 60 degrés à l'intérieur. Si c'est le cas, c'est que vous l'avez mis en plein soleil et que vous l'avez laissé pendant 10 heures d'affilée. Et bref. Donc, généralement, je mets l'eau le plus bas possible dans la voiture. Hein. J'ai un espèce de toit ouvrant, on va dire, derrière, qui me permet que la température de la voiture ne peut pas dépasser une certaine température. Premièrement. Deuxièmement, eh bien, je sais que quand nous sommes en voyage, nous sommes obligés de revitaliser l'eau régulièrement. L'encodage, lui, ça ne changera pas, puisque je vous dis que la température, l'encodage, on s'en fout, si ça reste dans des niveaux à peu près corrects. Il est évident que quand vous mettez de l'eau en ébullition, c'est-à-dire proche de 100 degrés, vous pouvez imaginer que l'encodage s'en prend quand même derrière les oreilles. D'accord? Mais donc, si c'est une eau qui ne dépasse pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les bulles, ça commence pas à bouillir dans la casserole, l'encodage reste. Donc, si le cristal est dedans, vous êtes sûr que l'encodage sera toujours là, quelle que soit la température. Ok? Mais le niveau énergétique va descendre. Donc c'est pour ça que quand on est en voyage, nous sommes obligés de faire des feux du cœur plus souvent sur l'eau de référence que d'habitude. Mais il n'y a pas besoin de frigo pour ça. Voilà. Une question de Raymond. Quelle eau de base utilises-tu, eau du robinet, eau de source pour ta bouteille souche? Alors il faut savoir que la bouteille souche, hein, la bouteille de référence, eh bien de toute façon tu vas la vider régulièrement, enfin une partie, dans l'eau de consommation, et il va falloir que tu la remplisses avec une eau, bien sûr, en conséquence. Donc là, bah, quelle eau tu vas mettre? Donc tu vas te rendre compte que il n'y a pas 36 000 solutions, c'est celle que t'as, que l'eau que tu as sous la main. Alors ce sera une eau de source, ça sera de l'eau du robinet, tout dépendra de quelle eau tu as sous la main. Donc, il est évident que tant que tu n'as pas un système hyper sophistiqué, on va dire, pour faire un décrassage chimique, et on va dire de bactéries et de toutes les saloperies qui peuvent traîner dans l'eau qu'on a, il est évident bah, qu'on met l'eau qu'on peut mettre. Et donc, nous avons installé sur notre charcuterie, entre guillemets, du robinet de la cuisine, nous avons mis un filtre céramique avec le charbon actif, machin truc, qui fait que ça décrasse chimiquement et ça vire aussi tout ce qui peut traîner, enfin, entre guillemets, dans l'eau du robinet. Alors, bon, voilà, ça a coûté 250 euros. Bon, ok, c'est un investissement, mais aussi l'avantage, c'est que nous pouvons tirer autant de mécu que l'on veut, à quelque chose près. Donc là, on n'est pas limité, on met cette eau-là, pour l'instant. Quand on sera un jour beaucoup plus fortuné, on pourra peut-être mettre des eaux plus élaborées, on va dire. Hein. Je pense au stylo jade, je crois que c'est le Kangen, ou des choses comme ça, c'est sûr que là, c'est le top du top. Mais bon, c'est le top du top aussi au niveau du porte-monnaie. Donc après, chacun fait selon ses moyens. Je rappelle une chose quand même, c'est que jusqu'à maintenant, la majorité des humains et des préhumains boivent l'eau du robinet. Donc de toute façon, quoi qu'on fasse, ça sera toujours mieux que rien. Vous allez voir que toutes les solutions se rajoutent les unes aux autres. Hein. Donc le cristal encodé n'est petit poussé n'est pas quelque chose qui remplace autre chose. C'est un supplément. Donc si vous arrivez déjà à avoir une eau, je dirais, chimiquement propre, une eau qui bactériologiquement est nickel, une eau qui, en termes de dimension, je veux dire de taille des molécules d'eau, est la plus fine possible, il est clair que vous partez déjà avec des atouts non négligeables, même sans mettre d'encodage et sans mettre aucun feu du cœur. Mais si vous mettez du feu du cœur et si vous mettez un encodage, alors là, vous avez une bombe entre les mains, quoi. Alors, je termine avec Isidore pour cette question-là. Alors, attendez, j'ai pas fini la question de Raymond. Je bois habituellement une eau de source, malheureusement bouteille en plastique, ce qui n'est pas optimal. Oui, d'accord, mais c'est pas optimal, mais c'est mieux que l'eau du robinet. Vaudrait-il mieux utiliser une eau du robinet déjà purifiée, partiellement filtrée? Filtrée pour la purifier des produits chimiques, mais un peu vivante, et d'y rajouter un cristal encodé pour élever son taux vibratoire. Donc là, comme je disais, moi je tourne, enfin je tourne depuis pas mal de temps, enfin des années avec de l'eau de source, et j'ai découvert que je prenne de l'Évian, du Vittel, ou que je prenne de l'eau de source bas de gamme, de toute façon ça changeait pratiquement rien pour moi. Donc, j'avais l'habitude d'acheter l'eau de source la moins chère possible. Alors me dire oui, mais allez, radier, parce que si, parce que ça, oui, d'accord, mais c'est quand même mieux que l'eau du robinet. Ok, mais bon, c'est un coût. Alors, il est évident que si on fait l'investissement dans un filtre qui permet de filtrer l'eau, qui fait que, bah, vu le prix du mètre cube, vous dites, bah, si j'achète un filtre qui coûte 250 euros, combien de mètres cubes? Enfin, le litre, il va falloir qu'il passe dedans pour que ça me revienne au prix du litre d'eau de source que j'achète. Et vous allez voir que si vous faites une consommation assez régulière, l'investissement dans un filtre est largement rentable. Parce que je suis sûr que vous ne nettoyez pas votre salade avec l'eau de source. Je suis sûr que vous n'arrosez pas votre jardin avec l'eau de source. Je suis sûr que vous ne donnez pas à vos animaux de l'eau de source. Donc, l'aspect du filtre, de l'eau du robinet filtrée, nettoyée, à ce moment-là, dès qu'on arrive à l'encoder en plus, c'est la solution pratiquement la moins chère qui puisse exister. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous permettre d'oublier l'autre source. C'est ce que j'ai fait. Ou peut-on juste utiliser l'eau courante du robinet avec le cristal encodé? Là, c'est la solution la moins chère, bien sûr. Hein, mais c'est pas parce qu'il est encodé que systématiquement ça va tuer, comme je disais tout à l'heure, le chlore, le fluor, enfin ça ne peut pas le tuer parce que c'est de la chimie. Hein, donc l'eau encodée, c'est une information, je dis. Hein, l'encodage est une information. Ce cristal encodé, en même temps qu'il élève le taux vibratoire de l'eau, agit-il également sur la texture de l'eau? Donc là, entre guillemets, neutralise-t-il les produits chimiques utilisés? La réponse est non. il donne de l'information, mais il ne nettoie pas l'eau. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir une eau la plus pure, la plus cristalline et la plus fine possible. Une question d'Isidore. Est-ce que le fait d'agiter l'eau encodée, notamment pour créer un vortex d'énergie, est un plus ou non? Mais oui, c'est un plus. Parce que si à chaque fois tu rajoutes, on va dire, l'effet vortex à chaque fois que tu veux boire, eh ben, c'est sûr que c'est un plus. Donc faut pas se gêner, quoi. Hein? Voilà. Alors,